RFI 5h30 à Paris et Kinshasa, 4h30 temps universel. L'actualité africaine, c'est avec vous, Sébastien Duhamel, bonjour.
Bonjour Paul, bonjour à toutes et à tous.
Et pour débuter votre journal, la vie compliquée à Goma, dans l'est de la RDC.
La capitale du Nord Kivu, qui vit depuis plus d'un mois sous le contrôle du M23, est sur place. La population manque d'argent, notamment les banques restent fermées. Un nombre d'habitants contraints de franchir la frontière rwandaise vers la ville de Gisenyi. Reportage là-bas dans quelques instants. Accusé d'incitation à la violence pour avoir interviewé une voix critique du président Mnangagwa au Zimbabwe, le journaliste Blaise Mlanga reste en détention. Son sort inquiète les défenseurs de la liberté de la presse. De nouveaux bombardements au Soudan du Sud. L'armée du président Salva Kiir vise des positions des forces d'opposition loyales au vice-président Riek Machar. La ville de Nasir dans la région du Haut-Nil au cœur de ces tensions. Nouvelle douche froide pour les supporters malgaches, la troisième en moins de deux ans. La Confédération africaine de football refuse de nouveau l'homologation du nouveau stade barré à d'Antananarive. Et puis, le ramadan qui débute pour les musulmans, rencontre dans ce journal avec un imam particulier, le docteur Mukhtar Abderrahman Sakine, défenseur de l'environnement. Et puis une exposition pour cette occasion à voir à la Bibliothèque nationale de Tunis, le Coran, vu d'ailleurs sur l'influence du texte sacré en Europe depuis le Moyen-Âge. Voilà pour le programme, soyez les bienvenus. Cela fait donc plus d'un mois désormais dans l'est de la RDC que le chef-lieu du Nord Kivu, Goma, vit sous le contrôle du M23 soutenu par le Rwanda. Le groupe armé a instauré sa propre administration parallèle, mais le quotidien est donc très compliqué sur place, car les institutions financières de la ville demeurent fermées. À ce jour, le manque d'argent, le manque de liquidité frappe la population. Alors, nombre de gomatraciens ont été contraints de se débrouiller ou trouver des solutions alternatives. Certains traversent ainsi la frontière rwandaise vers la ville jumelle de Gisenyi. Sur place, reportage de Lucie Mouillot.
Sur le parking d'une des banques à Gisenyi, presque toutes les voitures garées sont immatriculées en RDC. Eddy De Paul, habitant de Goma, a traversé la frontière de la Grande Barrière dans la matinée.
La guerre du M23, l'évasion du M23 à Goma, c'est la troisième fois que je viens au Rwanda pour le retrait d'argent parce que je dois honorer des factures, la famille doit vivre.
Tous les jours, face au manque de liquidité à Goma, de nombreux habitants se rendent à Gisenyi pour récupérer de l'argent de leur compte bancaire ou depuis les bureaux de Western Union.
Les banques ne sont pas fonctionnelles. Même les distributeurs non plus. Hein. Les gens ne savent même plus survivre. C'est la situation économique, mais finalement, c'est devenu très, très catastrophique. Pour l'instant, on ne voit pas de perspective d'avenir d'amélioration de la situation, parce que rien n'est rassurant.
Accompagné de sa femme, David retire une partie de son salaire depuis Gisenyi. Une opération qui coûte plus cher, mais seule option pour accéder à ses revenus pour le moment.
C'est toujours un peu compliqué avec le taux de retrait, les banques ne sont pas les mêmes et tout, mais on est obligé pour avoir du cash. On retire en francs rwandais et puis on va dans un bureau de change, soit on le change en dollars, soit on le change en francs congolais. C'est compliqué, mais bon, on est obligé, hein, c'est le prix à payer.
À Goma, les institutions bancaires attendent l'aval des autorités monétaires du pays pour ouvrir leurs portes. Lucie Mouillot, de retour de Gisenyi, RFI.
Et dans la province voisine du Nord Kivu, en Ituri, on note hier le déploiement de forces ougandaises dans la ville de Mahagi, à quelques 150 km au nord de Bunia, où des soldats ougandais avaient déjà été déployés il y a quelques deux semaines. L'armée ougandaise présente initialement pour lutter contre les rebelles ADF élargit ainsi son théâtre d'action dans la région. La RDC, où Mgr Donatien Ntcholé n'a pas répondu hier à la convocation des autorités. Le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo était invité à s'expliquer sur un communiqué de la CENCO. Celui-ci dénonçait récemment, je cite, « la stigmatisation et la chasse aux Congolais d'expression swahilifone à Kinshasa et dans plusieurs régions du pays ». La raison de cette absence n'a pas été encore communiquée. En revanche, le chef du parti de l'ancien président Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, qui était également convoqué par les autorités, a lui répondu présent. La RDC encore, où l'opposant Seth Kikuni a retrouvé la liberté hier soir, détenu depuis août 2024 dans la prison de Makala, condamné à un an de prison. Le président du parti Piste pour l'émergence du Congo bénéficie d'une libération conditionnelle à la suite d'une grâce présidentielle. Tout comme d'ailleurs un autre opposant, Mike Mukebayi, libéré lui après une détention de près de deux ans et une condamnation à 30 mois de prison. Une affaire à présent qui alerte sur la liberté de la presse au Zimbabwe, l'incarcération depuis le début de semaine de notre confrère Blaise Mlanga, accusé d'incitation à la violence pour avoir interviewé un vétéran du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Un vétéran qui se trouve être une voix critique du président Emmerson Mnangagwa. Le journaliste a sollicité une libération sous caution, mais la justice a rejeté sa demande vendredi. Correspondance régionale de Joséphine Klockner.
L'incarcération maintenue de Blaise Mtlanga est dénoncée par plusieurs partis d'opposition et la société civile comme une atteinte directe à la liberté de la presse. Le journaliste travaillant pour la chaîne HSTV est accusé par les autorités zimbabwéennes d'incitation à la violence pour la diffusion d'interviews d'un vétéran du parti au pouvoir, dans lesquelles ce dernier critique ouvertement le président de la République et appelle à sa démission. Tabani Moyo, directeur national de l'Institut des médias d'Afrique australe, s'inquiète d'une criminalisation du métier de journaliste.
Nous assistons au procès des médias. La preuve, c'est que l'État a appelé comme témoin le chef de la lutte antiterrorisme de la police, comme pour prétendre que le journalisme est désormais un acte terroriste, ce qui pour nous pose un problème majeur.
L'accès à l'information avait progressé après la chute du dictateur Robert Mugabe en 2017, mais la situation se détériore à nouveau depuis la réélection du président Emmerson Mnangagwa en 2023. Alors que la constitution zimbabwéenne garantit la liberté d'expression et celle des médias, des sections du code pénal sont de plus en plus fréquemment utilisées pour incriminer les journalistes comme Mtlanga. Reporters sans frontières a déclaré vendredi que Mtlanga avait été accusé à tort et a demandé sa libération immédiate. Joséphine Klockner, Johannesburg, RFI.
Les derniers hommages hier en Namibie à Sam Nujoma, père de l'indépendance et président premier et président du pays. Décédé le 9 février à l'âge de 95 ans, il a été enterré dans un mémorial situé près de la capitale Windhoek. Des milliers de Namibiens et de nombreuses personnalités du continent avaient fait le déplacement le 1er mars, décrété jour férié en Namibie pour l'occasion. Le bruit des bombes qui résonnent de nouveau au Soudan du Sud, confirmant ainsi le regain de tension constaté entre les forces du président Salva Kiir et celle de son opposant Riek Machar, pourtant vice-président à la faveur d'un accord de paix conclu en 2018. L'armée a ainsi bombardé cette semaine des positions de l'opposition et de la White Army, une milice communautaire qui la soutient. Tensions et combats intenses dans la ville de Nasir, où l'armée pose d'ailleurs un ultimatum menaçant de nouvelles frappes, alors que l'opposition, elle, affirme rechercher l'apaisement. À Djouba, on fait le point avec notre correspondante Florence Mietto.
Des barges militaires naviguant sur la rivière Sobat depuis Malakal, la capitale du Haut-Nil, sont au cœur des tensions. Envoyées par l'armée sud-soudanaise pour officiellement permettre une rotation de ses troupes basées à Nasir, elles ont été attaquées par la White Army vendredi dans le comté de Oulang. Assaut repoussé, affirme l'armée. Jeudi, Riek Machar a sollicité une rencontre avec le président Salva Kiir afin de, je cite, « discuter de la détérioration de la situation sécuritaire ». Mais la rencontre n'a toujours pas eu lieu. Et hier samedi, le porte-parole de l'armée a lancé un ultimatum aux combattants de l'armée de Riek Machar ainsi qu'à la White Army, qu'il accuse d'avoir, je cite, « déployé des unités lourdes d'appui au combat à Nasir ». Il menace, selon ses mots, de déployer des capacités de soutien aérien supérieures et mortelles. Un porte-parole du parti de Riek Machar condamne cette guerre de propagande et nie toute implication des forces de Riek Machar dans les combats opposant l'armée sud-soudanaise à la White Army et regrette que les forces armées unifiées prévues par l'accord de paix ne puissent pas être déployées à Nasir. Florence Mietto, Djouba, RFI.
C'est une nouvelle déception pour les supporters malgaches. Ils devront encore patienter un peu avant de voir un match officiel à domicile dans le stade Baréa d'Antananarive, construit à grands frais en 2021. Il ne répond pourtant toujours pas aux normes des instances internationales du foot. Une inspection de la CAF réalisée mi-février s'est en effet conclue sur un refus d'homologation. Et c'est déjà le troisième en moins de 2 ans, Guilhem Fabry.
Madagascar ne jouera pas ses 2 prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde à domicile comme initialement prévu, mais au Maroc. Si la CAF note des améliorations au niveau de la sécurité du stade Baréa, l'état de sa pelouse laisse encore à désirer. Le secrétaire d'État chargé de cette infrastructure, Gérard Andria Manoissou, regrette une multiplication de normes selon lui trop difficiles à appliquer.
C'est dur de suivre le rythme. Il faut qu'à un certain moment, la CAF s'arrête. Parce qu'un pays comme Madagascar, qui a fait des efforts énormes, on a décidé de construire ce beau stade sur les normes de FIFA. Donc c'est pas logique que la CAF n'homologue pas un tel stade.
Construit en 2021 pour un coût de 77 millions de dollars, le stade a accueilli quelques matchs officiels avant qu'une bousculade ne fasse 13 morts lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux des îles de l'océan Indien en 2023, entraînant le retrait de l'homologation. Depuis lors, Lalaina Rakotunrazak, président d'un groupe de supporters, attend de revoir son équipe.
C'est triste. Ça fait presque 2 ans qu'on n'a pas eu de match officiel au stade. Et c'est la troisième fois que le stade n'a pas été homologué par la CAF. En 2 ans, si quelque chose n'a pas bougé, c'est qu'il a vraiment un problème. Peut-être qu'il n'a pas de la compétence. Peut-être aussi qu'il n'a pas assez de moyens financiers. On espère que le président de la République prendra les choses en main aussi.
Des techniciens de la CAF et de la FIFA sont attendus ces prochains jours à Madagascar pour aider à restaurer la pelouse avant une nouvelle inspection prévue à la fin du mois. Guillaume Fabrion, Tananarive, RFI.
Allez, en ce début de Ramadan pour les musulmans du monde entier, RFI vous propose ce matin une rencontre avec un imam bien ancré dans son temps, le docteur Mukhtar Abderrahman Sakine, enseignant-chercheur en sciences humaines et sociales à la faculté de N'Djamena au Tchad, titulaire d'un doctorat sur la pollution alimentaire, un religieux qui porte donc la casquette universitaire également, et qui s'est donné pour mission de défendre l'environnement. Il occupe une grande place dans ses prêches à la mosquée Al-Rama de Toukra. Igor Strauss l'a rencontré pour notre reportage dans son bureau à l'université.
Costume traditionnel et chaîche blanc sur la tête, l'imam rappelle certains fondements de l'islam.
Le Coran ici met en garde contre la destruction de l'environnement. Au moment de la prêche, donc, j'ai dit toujours aux croyants, aux fidèles musulmans, donc, de ne pas couper les arbres, donc, et toujours, on les sensibilise sur la protection de l'environnement.
Une sensibilisation qu'il mène seul à son grand regret.
À N'Djamena et aussi dans le Conseil supérieur des affaires islamiques, nous comptons aujourd'hui plus de 700 mosquées. Et je suis le seul imam qui espère, je peux dire, un changement climatique.
Il souhaite donc sensibiliser les autres imams, car pour lui, aucun doute.
Parmi toutes les religions, il n'y a pas une religion qui préserve la nature autant que l'islam.
Pendant tout le ramadan, il prêchera donc pour la défense de l'environnement. Igor Strauss, N'Djamena, RFI.
N'Djamena, où il est 5h passées de 41 minutes.
Afrique Matin sur RFI, Sébastien Duhamel.
Restez avec nous, bien sûr, sur RFI. Dans les prochaines minutes, des manuscrits qui datent des 10e et 12e siècles avec une exposition.